Alors bonjour Carole.
Bonjour.
Carole Morel, merci d'avoir accepté notre invitation du coup pour cette première rencontre dédicace à la droguerie BD. L'idée vraiment de cette rencontre, c'était de revenir un peu sur ton œuvre qui a débuté donc il y a presque 8 ans.
Ouais.
Et l'idée aussi de redécouvrir aussi un peu l'éventail des sujets et des thèmes que tu as pu commencer à aborder depuis 7-8 ans. Des sujets qui sont à la fois parfois très intimes et personnels, mais aussi des sujets presque universels, on pourrait dire. Intimes lorsqu'on parle de coming-in, d'écume, et universels quand on va vers plutôt Nelly Bly ou l'institutrice, où on parle de liberté, de quête d'identité, de combat face à l'adversité, de dépassement de sa condition. Donc c'est ça qui me paraissait important d'aborder avec toi aujourd'hui, c'est cette diversité des regards en fait sur ça m'amène à ma première question, c'est de savoir un peu après toutes ces années, est-ce que tu as un recul un peu sur les différents personnages que tu as pu croiser, que tu as pu créer en fait. Voilà, quel attachement tu as envers ces personnages aujourd'hui?
C'est difficile d'avoir du recul, vu que j'ai tout le temps la tête dans le guidon. Je pense que j'ai... Je pense qu'il y a des... Il y a peut-être un type de personnage qui est récurrent, je pense. Peut-être sur les personnages féminins qui reviennent assez souvent et qui sont affirmés ou sur le point de le devenir... tu parlais de quête identitaire tout à l'heure, donc c'est un sujet qui moi me touche. Au départ, c'est des personnages qui sont pas forcément affirmés, mais qui vont être amenés à rencontrer des aléas ou des embûches qui vont faire qu'ils vont finir par le devenir en fait. Ça peut être des portraits féminins un peu anachroniques, un peu en décalage avec leur temps, avec leur époque aussi. Un peu en avance, clairement en avance. J'ai Nelly Bly devant les yeux, donc du coup, c'est ce qui me vient en premier. Pour l'institutrice, c'est un peu ça aussi, quoi. C'est un personnage qui sort...
Qui
sort des clous, en fait. Oui, et puis elle se révèle en plus aussi à elle-même. C'est que ce sont vraiment des personnages qui sont complexes, quoi. Il y a une complexité humaine qui, pour le coup, est assez réaliste, je trouve. D'où, je pense, l'aspect intime et à la fois universel, quoi. C'est que nous aussi, nous sommes des êtres complexes et on se révèle au fur et à mesure que qu'on vieillit et puis des expériences qu'on est amené à vivre ou à subir parfois. Et voilà, c'est ce qui fait toute notre richesse, en fait.
Ah oui, c'est ça. Et c'est vrai que quand on aborde ton travail, c'est vrai que n'importe quel bout qu'on prend... on a l'impression que d'avoir face à nous pas un monolithe, mais on retrouve ta patte à chaque fois. Il y a vraiment un trait. On y reviendra après au niveau du dessin, mais il y a un dessin qui est quand même assez reconnaissable entre tous. Quoi, c'est vrai qu'on peut peut-être percevoir aussi une évolution dans ton trait au fil des années.
Ah ouais. Pour le coup, la patte et l'identité graphique qui se dégage, c'est un truc qui m'échappe un peu. Par contre, moi, je mets un point d'honneur à chaque album à essayer d'avoir une écriture un peu particulière, en fait, pour chacun qui va coller au récit que je vais être amené à illustrer, quoi. C'est par exemple sur un récit, une histoire comme l'institutrice, voilà, si le scénariste me demande d'appliquer les mêmes recettes que celles que j'ai appliquées dans Coming In, ça va pas le faire parce qu'en fait le type de récit est complètement différent. Coming In, c'est plutôt de l'introspective, c'est du témoignage raconté à la première personne. C'est très intimiste en fait, et donc forcément ça laisse un champ de liberté graphique et de possibilités qui est pas du tout le même que dans un récit d'aventure qui peut aussi connaître des variations graphiques mais à un autre niveau en fait, d'une autre manière. Donc ça va se jouer avec des changements de cadrage, avec ça va être voilà, sur le côté un peu plus technique, un peu plus classique peut-être que sur notre album qui va être un peu plus introspectif, quoi. Coming In, pour le coup, on peut avoir on peut voir une filiation un peu avec ce que j'ai fait. Remarquement, il sort quand même pas mal du lot, Coming In, je trouve. Mais dans Nelly Bly, il y a des variations graphiques aussi. Dans Beau Jungles, il y en a quelques-unes.
Il y a Jeannot aussi, il y a Merlin. Ils sont derrière aussi, je ne sais pas, sortis. Mais...
En jeunesse,
oui.
Jeunesse haute ou publique ça peut être lu par les adultes aussi.
Oui.
De toute façon, on est dans l'émotion en fait. L'idée, c'est de retranscrire l'émotion. Ouais. Donc, en fonction des scénaristes avec qui je travaille, s'ils me laissent le champ libre ou qu'ils m'encouragent à aller vers. Quelque chose d'un peu plus expérimental graphiquement, moi je m'en donne à cœur joie quoi, à partir du moment où, où ça se prête bien au récit et on n'a pas l'impression que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. L'effet pour l'effet, bon, ça peut être dommageable en fait pour le récit. Donc,
Et typiquement sur, justement, sur les comptes perdus avec le travail que tu fais avec Loïc Clément, comment en fait s'est passée la transition entre Jeannot et Merlin, sachant qu'entre temps il y a eu dans cette série, dans ce cycle-là, il y a eu d'autres collaborations que Loïc Clément a menées avec d'autres dessinateurs. Et comment ça s'est passé en fait? On sait qu'il y a du coup il y a un fil rouge, hein, il y a un lien entre les deux. Hein. C'est Jeannot, il y a Chaussette, Merlin, c'est la même.
Alors à la base il y a Chaussette qui du coup a été illustrée par Anne Mantel. Au départ, ça devait pas être elle, et puis finalement, ça a été. Ils sont partis sur Anne Mantel qui a accepté de l'illustrer. Et après, pour la suite de Jeannot, elle avait plus le temps. Donc du coup, avec Loïc, on avait parlé d'un éventuel projet, tout ça. Puis ça s'est pas fait. Donc il est revenu vers moi pour Jeannot, en pensant que ça pouvait coller. Et puis moi, l'histoire me tentait. Donc après, il fallait que je me réapproprie un petit peu l'univers, parce que l'idée, c'était pas d'essayer de refaire ce qu'avait fait Anne Mantel. J'en étais complètement incapable. Donc essayer de retravailler un peu l'univers à ma sauce, à ma manière. Et comme ça a plutôt bien fonctionné, on s'est dit que tiens, c'est pas vraiment une suite, du coup c'est plutôt un spin-off.
C'est ça, oui.
J'allais retravailler dessus, quoi. Voilà, et ça clôt le triptyque, en fait. C'est une trilogie.
C'est ça, avec Chaussette qui chapeaute un peu.
Oui,
un
c'est
peu
ça, tout. Ouais, tout à fait.
C'est ça qui est intéressant, c'est que ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur la complexité des êtres, en fait, parce que... C'est Chaussette, c'est la voisine de Merlin, qui est un jeune garçon qui est traversé d'inquiétude puisque sa maman tombe malade, et lui en même temps il tombe amoureux. Et Chaussette va essayer de le faire un peu lâcher prise en fait,
de
se confier en fait.
Ouais.
Et elle s'y prend avec humour, avec malice. Et elle se rend compte en cours de route que ça passe pas et que du coup ça crée chez elle un trouble aussi, quoi, parce qu'elle se remet en question. Et c'est pour ça que la question aussi de la frontière entre adulte et jeunesse, elle est pareille, elle est assez ténue là-dessus, parce que comme tu dis, c'est jeunesse et en même temps c'est pour tout le monde en fait.
Oui, c'est ça, ouais.
Ça me fait penser à une BD qui est sortie il n'y a pas trop longtemps, Le cœur en braille, je ne sais pas si tu l'as lu.
Ah, j'ai vu passer, j'aime bien le trait de Anne-Lise.
Il y a
peut-être plusieurs niveaux de lecture, en fait. Ouais, un plus accessible adulte et puis un autre plus accessible jeunesse, quoi. Mais c'est ce qui est vachement bien, parce que moi je suis persuadée que tous les enfants n'ont pas la même maturité face aux récits qu'on leur donne. Donc il y en a qui vont avoir un peu d'avance et qui du coup vont pouvoir percevoir des choses que d'autres perçoivent pas, et c'est vachement bien, parce que bah, des fois en 2 ans un gamin peut faire des progrès énormes en plus, donc relire la même BD 2 ans après, on comprendre des choses qu'il n'avait pas forcément vues à la première lecture, donc c'est assez chouette de travailler sur les récits jeunesse pour ça, moi je trouve. Si nous on a choisi en fait de traiter un épisode particulier en fait dans sa carrière, qui est l'affaire en fait qui l'a lancé, Nellie Bly, parce qu'on pourrait je crois que c'est la première journaliste d'investigation en fait américaine, Nellie Bly, et donc du coup l'affaire qu'il a lancée, c'est son enquête dans un asile psychiatrique. Elle a dû se faire passer pour folle, en fait, pour pouvoir aller enquêter. Donc, elle avait pris quelques garanties en amont. Mais, n'empêche que, voilà, c'est le genre d'endroit où, une fois qu'on y est, on ne sait pas si on pourra vraiment en sortir. Surtout à l'époque où les diagnostics ne sont possible. Pas les diagnostics d'aujourd'hui, avec les mêmes moyens, quoi. Donc, donc ben voilà, il y avait l'effet pionnière, et puis surtout il y avait l'univers moi qui m'avait intéressée, parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de partir dans un univers un peu sombre, un peu presque dans l'horreur en fait, fantastique, un peu glauque, faire de la BD qui fait peur. Donc là on n'est pas vraiment dans de la BD qui fait peur, mais n'empêche on a quand même un univers un peu
glaçant,
Lovecraft, voilà. Ouais, ouais,
presque crépusculaire.
Complètement, ouais. Complètement, ouais. Très vaporeux, très... alors là, c'est le contre-exemple, là, je suis en train de tourner, parce que ça c'est... justement, c'est intéressant que je tombe là-dessus. Ça, c'est un flashback, en fait. Donc, du coup, l'idée, c'était d'avoir un traitement différent pour les flashbacks, un traitement graphique, pour, encore une fois, pour rythmer, et puis pour situer les lecteurs dans le temps, et se dire, ah tiens, hop, là, on change de...
De temporalité.
Voilà, on bascule de temporalité. Mais voilà, sinon c'est vrai que c'est un album qui est assez sombre, un peu lunaire, comme ça.
C'est ça.
Un peu charbonneux.
Oui. Pas forcément réaliste au final, quoi.
Non, pas forcément réaliste, mais...
C'est pas l'enjeu.
Non, il y a des monstres et des fantômes. Hein. C'est pareil, la folie, il fallait aussi lui donner corps. Donc sans forcément avoir des personnages avec des positions trop caricaturales, ou parce que on a aussi voilà une forme de folie avec des personnages qui restent ancrés dans le passé ou dans un imaginaire beaucoup plus léger, quoi. Donc non, c'était super intéressant graphiquement à traiter pour le coup, Nellie Bly, quoi. Et on n'a pas voulu faire un biopic classique qui retrace toute sa vie, parce que sur un album, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui a une vie tellement riche, ça me paraissait impossible.
Oui. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que vous le traitez de manière pas du tout opportune. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas traiter un parcours de femme pour le parcours de femme, c'est d'abord une personne qui a eu une vie incroyable.
Oui.
Femme ou homme, on s'en fiche au final, quoi. Enfin, bien sûr, ça compte parce que elle a été au début quand même dénigrée, parce que tout part aussi d'un article qui méprisait
les femmes.
Les femmes, hein, et elle y répond, elle obtient un poste grâce à ça d'ailleurs. Mais c'est ça aussi qui parcourt un peu ton travail, c'est que on croise beaucoup de femmes, mais c'est pas de manière opportuniste, c'est toujours la femme traitée comme une personne qui est d'abord audacieuse et courageuse, elle est pas dans la résilience, dans la souffrance,
Oui,
comment toi tu peux expliquer ce rapport de...
Je pense que c'est quelque chose qui m'échappe complètement. Pour le coup, Nellie Bly, je suis allée lire sa biographie et je suis un peu tombée amoureuse du personnage, quoi. Il y a quelque chose de très... Enfin, même quand on la lit, quand on lit les récits, il y a quelque chose de très, très, très sincère qui s'en dégage. Et on adhère et on se projette forcément et on l'a quasiment en face de nous, en train de nous raconter ce qu'elle a vécu, quoi. Donc,
c'est une pionnière malgré elle, en fait, c'est ça aussi qui est...
Oui, il y a un peu de ça, donc je pense que c'est... n'y a pas à mettre un vernis quoi dessus, je trouve. Pour le coup, c'est ah oui, on fait un personnage badass aujourd'hui, mais non, c'est pas forcément ça en fait. En fait, ça devient un parcours féministe, mais à la base, Nellie Bly, elle n'avait pas forcément ni les moyens, ni le temps pour être dans l'activisme ou dans le militantisme, en fait. Donc, elle a essayé de survivre. Donc, c'est presque devenu un personnage un peu féministe malgré elle, quoi.
C'est ça, oui.
Mais après, tant mieux, voilà, c'est une figure féministe aujourd'hui. Et c'est vachement bien. Mais moi, j'aime bien ces parcours un peu intime comme ça, et on part vraiment de l'échelle humaine, quoi, et puis on arrive à quelque chose d'universel, quoi.
Ça nous amène du coup aussi à Jeanne, qui, comme tu disais au début, avant cette rencontre, tu t'étonnais de voir comment on avait mis les livres de Carole Trébor en avant, parce que tu les illustres. Donc ce sont pas des BD, mais ce sont des romans illustrés, enfin même pas illustrés, hein, c'est fin.
J'en fais la couverture et
tu as fait la couverture et quelques
et les petits cabochons à l'intérieur.
Mais moi je tenais vraiment à les mettre en avant parce que ça fait partie de ton aussi de ton parcours.
Oui, ouais. Non, et puis c'est des petits romans très chouettes parce qu'à chaque fois c'est pareil, ils mettent en avant une figure féminine importante.
Voilà, c'est ça. Je trouve qu'il y a pareil, il y a un pont avec Nellie Bly dans le sens où on croise, en fait, on ne fait que croiser des parcours de femmes sans y mettre les deux pieds dedans.
Non, c'est ça. C'est un petit coup de projecteur à chaque fois. Et je trouve que c'est vachement bien. Ça permet de susciter un peu la curiosité, peut-être, voilà, surtout sur un public comme celui-là qui connaît pas forcément. Du coup, tiens, j'ai entendu parler...
C'est ça. Qui va rentrer dans le roman par le côté enquête, le côté action, et qui va, en fait, par coïncidence, tomber sur des pionnières de l'aviation.
Ouais, c'est ça.
Kiki de Montparnasse. C'est vraiment une super série aussi.
On est sur du divertissement, avec un grand D. Moi, c'est, les œuvres de divertissement, moi, j'adore. Parce que c'est une passerelle, en fait, pour accéder à autre chose, quoi, une autre forme de savoir qui peut, par ailleurs, nous intimider un petit peu, voilà, quand on est jeune, quand on n'ose pas forcément, tu vois, aller aborder les grands auteurs, les grandes autrices,
nous, on voit bien en librairie que ça a beau être un sujet de plus en plus prégnant dans la société, que chacun s'approprie... Ça reste quand même compliqué de l'aborder de but en blanc, en fait, avec les lecteurs, avec les clients, avec les jeunes aussi, surtout. Parce que c'est pas forcément ce qu'ils viennent chercher, en fait. C'est ça qui est assez, assez compliqué pour nous en tant que libraires. C'est que on peut pas non plus se mettre à la place des lecteurs, quoi. Ouais. Mais oui, c'est intéressant aussi. Ça nous fait travailler aussi sur. Je me demandais si tu avais une couverture, si tu devais en garder qu'une, et nous raconter un petit peu l'histoire de cette couverture, ou nous dire, nous raconter comment tu fonctionnes, comment ça marche.
C'est pas si évident. Moi, j'en garderais peut-être. J'ai envie d'en garder 2-3.
Vas-y, on a le temps. On n'a pas parlé de Bojangles.
Non, c'est vrai. Bojangles, c'est une adaptation. Donc, si tu veux... En plus, là, c'est la réimpression que tu as sortie. Donc, la couverture n'est pas la même.
Elle a changé,
oui. Oui, c'est ça. Sur la première édition, en fait, on a gardé le schéma qu'il y avait sur la couverture du roman avec le couple qui danse.
Oui.
Et sur l'affiche du film aussi. Qui était adapté du roman.
C'est intéressant, du coup.
C'est un choix éditorial d'aller chercher plutôt un truc alternatif pour la réédition, avec les trois personnages comme ça, et la mère qui est à l'envers, sans dessus dessous.
C'est ça.
Ouais.
Ça dit tout.
Ça dit tout. C'est ça, mais moi, j'aimais bien la couverture de Comynine, en fait.
Ah oui.
Pour le coup, je sais même pas s'il y a besoin de la... C'est un résumé, en fait, du bouquin, quoi. Ouais. Et en plus, graphiquement, j'ai vraiment pas proposé beaucoup de propositions à l'éditeur. On est parti de suite là-dessus parce que j'ai eu en tête rapidement. C'est un album dans lequel on joue beaucoup avec la couleur noir et blanc. La couleur, elle a une importance mais vraiment capitale en fait dans le récit parce qu'elle marque une rupture en fait avec le cheminement du personnage de la protagoniste, qui a une sorte de révélation et qui, du coup, à partir du moment où elle a cette révélation-là, elle voit les choses d'une manière complètement différente. Mmh. Et donc, la couleur vient un petit peu la percuter, quoi, d'une certaine manière. Et donc là, l'idée, c'était justement d'illustrer ce passage de, on va dire, une méconnaissance de soi à la connaissance de soi, une espèce de révélation comme ça. Donc, elle sort la tête de l'eau. Et en passant par tout un tas d'émotions, en fait, illustrées par ses couleurs, quoi. Mmh. Voilà. C'est un peu une lapalissade, mais moi, je l'aime beaucoup graphiquement, en fait. Mmh. Je la trouve, c'est une des plus percutantes, en fait, quoi. J'aimais bien celle d'écume aussi, avec du recul, ouais. Parce que je trouve qu'on est dans la sobriété. En fait, et c'est pareil, elle résume le
contenu.
Ouais, enfin, c'est le... ça, je dirais, l'ADN émotionnel de l'album, quoi. On est avec un personnage qui vogue, en fait. Et, c'est même une métaphore qui est récurrente dans l'album et qui revient assez souvent avec des rêves, une espèce de passage onirique à chaque fois. Un personnage qui essaye de sortir la tête de l'eau et de reprendre un peu pied. Mmh. Et là, bizarrement, j'ai pas utilisé justement le contraste noir et blanc couleur, alors que c'est quelque chose qui existe aussi dans l'album, en fait. À partir du moment où la protagoniste vit l'expérience dramatique dont il est question, sa vie bascule en noir et blanc, et je réintègre la couleur, en fait, après progressivement... en fonction des éléments qui la ramènent un petit peu à la vie, quoi, on va dire. Et c'est un truc que j'ai pas repris sur la couve ici. Voilà.
Mais c'est marrant parce que...
Et Merlin... Beaucoup d'eau, hein.
Oui, c'est ce que j'ai... Oui.
Ici aussi, ouais.
C'est
Ouais, quelqu'un d'autre m'a fait la remarque, notamment quand l'institutrice est sortie, parce que elle est très... peu de temps entre Merlin et l'institutrice, et on m'a dit, mais dis donc...
Il y a un truc, là.
Il y a un truc avec l'eau, quoi, avec les éléments. Ouais. Ouais. Puis quelqu'un d'autre m'a dit, mais l'eau, c'est l'émotion, en fait, donc...
Mais oui, oui,
c'est vraiment... Je sais pas, mais...
Il y a des échos. Bon. Je sais pas si toi, tu as des questions.
Non, j'écoute, je pensais... Intéressant. Je voulais savoir comment tu travailles avec les scénaristes. T'as vraiment des réunions de travail avec ou tu travailles très en autonomie
Au début, il y a une partie de ping-pong qui peut être plus ou moins longue. Ça dépend. Après, je travaille en autonomie à partir du moment où j'ai un storyboard qui est validé en fait. Le storyboard, c'est vraiment pour moi l'étape où on échange le plus avec le ou la
c'est
scénariste.
C'est validé par l'éditeur avant que tu commences à travailler ou vous l'auto-validez
Non. Alors en fait, l'éditeur souvent valide le scénario avant que j'attaque. Ça se passe pas toujours comme ça, hein, mais en général, l'éditeur vient me voir, il a déjà un scénario sous la main. En cours d'écriture ou dont l'écriture va commencer. Du coup, moi, je vais revenir dessus beaucoup plus tard parce que le temps de travail pour les scénaristes n'est pas tout à fait le même que pour les dessinateurs. Le moment où on commence vraiment à bosser ensemble avec les scénaristes, en général, avec moi, c'est au moment du découpage et du storyboard, en fait. Le scénario est déjà là. Plus ou moins abouti. Des fois, enfin, j'ai travaillé avec des scénaristes qui faisaient par tiers. Donc voilà, en fait, on bossait sur un premier tiers ensemble et pendant ce temps-là, on continuait d'écrire la suite. Mais ou alors, le scénario est déjà validé côté éditeur, et puis hop, on attaque le storyboard ensemble, quoi. Mais c'est vrai que du coup, ouais, c'est souvent des échanges à deux, mais même à trois avec le directeur de collection, quoi, ou l'éditrice ou l'éditeur. Et ça peut être plus ou moins long, en fonction de comment a été préparé le scénario, si j'ai déjà des suggestions de mise en scène, de découpage côté scénariste ou pas. Pour l'institutrice, ça a été long parce que j'ai dû, moi, proposer un découpage. Et après, on en a rediscuté avec le scénariste. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses à revoir à cette étape-là. Et voilà, après, une fois que le storyboard est validé, que tout le monde est d'accord dessus, moi, j'avance, de front. En général, j'aime bien montrer, allez, un premier tiers, quand même, je commence à montrer, parce que j'ai la particularité, moi, de, en général, faire l'ancrage et la couleur ensemble. Donc, c'est un petit choc pour le scénariste qui reçoit, donc, enfin, qui passe d'un projet à l'état d'ébauche à une page finie, quoi. Oui.
Tu fais toujours toutes tes couleurs.
Ouais. Ouais. Et j'arrive pas à déléguer. Je pense que ça peut être un exercice intéressant. J'y réfléchis pour la suite, mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas forcément l'envie. J'aime bien l'idée de voir chez moi la planche terminée, en fait. Mais après, il y a des coloristes qui sont super talentueux et talentueuses, et à chaque fois, je vois leur travail, je me dis, on va bien travailler avec eux. Et puis ça doit être une manière de bosser super intéressante aussi, quoi, de laisser le bébé filer dans les bras de quelqu'un d'autre et de revoir passer ses planches avec une patte un peu différente de la sienne, quoi. C'est encore autre chose, quoi. Mais pour l'instant je fais ancrage et couleur et storyboard aussi.
Et tu as des projets?
Oui, en ce moment, je suis en train de travailler sur... alors, c'est de l'historique. Je retourne chez Glénat, du coup, avec la scénariste Marie Bardiot-Vaillant. Et je travaille sur le procès Bobigny de 1972.
Wow.
Et donc, tu vois, voilà, on parlait des personnages illustres. Justement, ben là, on a Gisèle Halimi qui en fait partie. Mais pour le coup, ça sera pas un biopic sur Gisèle Halimi, quoi. C'est vraiment l'histoire du procès Bobigny de 1972 et beaucoup plus axé sur Marie-Claire Chevalier et sa mère Michel, en fait. Donc c'est un beau projet, quoi. Je suis dessus en ce moment et c'est pareil, émotionnellement parlant, c'est très prenant, quoi.
Il y avait... je fais un aparté, mais il y avait une super pièce de théâtre qui avait été faite
par
Émilie Rousset. C'était incroyable, le travail qu'elle avait fait.
J'ai aperçu la mise en scène qu'elle avait.
J'ai eu la chance de le faire et c'est une vraie expérience en tant que spectateur.
Ouais.
Parce qu'en fait, on est amené à se déplacer de table en table et à écouter et à voir jouer différents personnages protagonistes du procès, quoi.
D'accord, oui, donc c'est encore plus complexe que ce que je pensais, quoi.
Ouais, c'est... Du coup, on voit vraiment l'œuvre, enfin, pas l'œuvre, mais le côté collectif de l'affaire, quoi. C'était assez dingue, parce qu'en plus, on voyait les différents partis anti-avortement, pour-avortement, les scientifiques, les manifestants, enfin les activistes. Donc vraiment les différents regards
plusieurs dimensions, en fait.
C'était vraiment remarquable, quoi. Ok, ça promet.
C'est pour normalement premier semestre 2024. Pas encore de date précise, mais ça devrait être mars, courant mars. Faut que je me dépêche un petit peu.
Mais non, ça va aller. Bon, on va s'arrêter là. Si,